So welcome back to our afternoon session. We will have now a panel on the challenges of financing media development. I welcome here Patrice Schneider of the Media Development Investment Fund, Philippe Couve of SAMHSA, Tony Heredia, who is teaching at university in Nigeria. And we don't have Johan de Falander because he couldn't come. He was in Rwanda and he called us. He couldn't reach us. So unfortunately, he cannot be here with us today. I just wanted to explain briefly to the ones that were not here yesterday when we started our conference with an academic workshop that actually we really had a very intense day already yesterday where we exchanged about research on media development. And in that workshop there were quite many people from Africa that participated and contributed with very good papers, research papers. And today it's true we don't have many Africans in the panels, but I forgot to say before that there is indeed one African in the panel later on. However, the idea was that for the people, especially also for the African people that came, the idea was to have a different set of invited speakers with whom they could exchange with. So I hope in the end the result will be good, and I think I will learn from it, and I hope we'll be able to have another conference so that I can, make use or take advantage of the little network I've been trying to create right now. So now I let you go.
Okay, thank you very much. We will proceed like in the first panel. So every participant should introduce himself and say what is his point and his function in developing media, financing media development in Africa. So let's begin with you, Mr. Schneider.
Thank you very much. First of all, Cynthia, I have to tell you something, is that I was very sensible about the ratio of indeed of African, but I normally never sit on podiums with only men. So next year it would be nice also, because what I normally do is I asked if there's a woman colleague in the room who actually has something to say on the subject, and I've given my place before. But because you've worked very hard on this and getting the proper people here, I will not do my trick this time. So thank you.
He is a feminist, huh?
Working on it.
I did notice the problem.
But I normally never accept. First of all, thank you very much. We're very happy to be here because I realize this event is part of the 20th anniversary of Fondation Hirondelle. Joyeux anniversaire. It's important for us because we are also 20 years old, the Media Development Investment Fund, and I dare to say that, Jean-Marie, that we share, if not the tools, at least the goal of promoting independent, quality, free flow of information around the world for the past 20 years. So I'm very happy. Now, what is the Media Development Investment Fund, if I may, in 2 minutes?
Yes, three minutes?
Is that okay?
Yes, absolutely. We don't know this.
So basically, we are, as I said, a nonprofit. We are 20 years old, but you might want to call us a very funny nonprofit, a very funny NGO. 20 years ago, the idea was very simple, was that we believed that independent media in emerging democracies could be helped, yes, by grant, but we wanted to use the market. It was a crazy idea. It started with $500,000 by Mr. Soros. We went to him and he said, you're crazy if you invest in these people. If you give them a loan, they will never pay back. Well, 20 years later, we've invested $120 million in 31 countries, all of them emerging democracies, places where there's a history of media oppression. I would say that in the spectrum of countries, we don't work in the, what Jean-Marie taught me to say, volatile environment for Fondation Hirondelle. We don't work in that part. But we do work in some of lesser volatile environment. That's Indonesia under Suharto, the Balkans after the war with the warlords going after independent media, Guatemala still today. These types of countries which require. And we've invested, as I said, it's about 120 companies around the world. Today, as we speak, we have out there, and now it's important for me to explain to you that I'm going to speak. I'm not a banker. I'm a former war reporter and a former media business person, but I've in the past 12 years with MDIF, I've taught wrongly to speak like a banker, but I hope this will shed some light on the conversation of financial viability today. So we have today $42 million invested in 35 companies, organizations in these countries that are trying to be change agents in their country by providing accountability and financial to our financial viabilities. Of that $42 million portfolio, that's the nasty word, in that portfolio, $11 million is in Africa. In 8 countries, we're in Nigeria, Zimbabwe, Zambia, Lesotho, Somalia, Botswana, and of course, South Africa. I started by the ones which require, this is where we are. I'll pretty much stop. This is my first part. This is what we've been doing, and I'll just throw out the future in 1 minute.
Yes, of course.
So we've been working essentially with TV, newspapers, and radio. So that's the past. Basically, the idea is simple. If you find one independent publisher, a man or a woman, in one of these countries from Russia to Guatemala, that want to become, in an entrepreneurial way, more editorially independent by having the means financially, they come to us. And that's what we've been doing. Now, you all know in this room that the world is changing. The market, as I said earlier, to fund independent quality information that free flows is changing. So what are we going to do in the next 20 years? And what we are looking at right now is the following thing. We believe that there is an opportunity to use the market for freedom of expression around the world around the following concept. It's called social change driven by digital acceleration. And it's for the whole of the world. It's all the emerging democracy where we work, but I think it applies itself to Africa. So what we are looking is at 3 things. If there is an intersection of these 3 things, we believe there's an opportunity of having the market fund freedom of expression. The first one is the virtuous circle. We have found in our 20 years that if you have a little bit of political liberalization in these countries, whether it's economical or regulatory, the virtuous circle, independent media can start like a flower under the asphalt. It can start to bloom a little bit, and it becomes a virtuous circle because the reforms are actually helped by independent media and independent media. Is it perfect in Africa? No. But there are a lot of countries right now where this is happening. There are countries, as my African brothers would say, where there are no war and conflicts. There are places where literally, you know, the consumption is trying to boom. So that's the first intersection. Is there this virtual circle of independent media and political liberalization? The second one is something we should not forget, is consumption, market consumption. Basically, as you look at Southern Africa, one of the figures we like to look at is supermarkets. Has nothing to do with our great ambient, our great goal of journalism and quality journalism. But it's very important. As you look at the notion of supermarkets going up in Southern Africa, the consumption is going up. And when that goes up, for us, it's important that every dollar, every euro spent on that consumption for advertising from these supermarkets, our job is to funnel this to the men and women who are providing quality journalism in Southern Africa. So the second crux, if we see the virtuous circle, the second crux is market consumption wheel up. And the third and last one is what we call digital acceleration. Today in Africa, we can see that, you know, from a country over the decades that has gone from little internet now to millions of people actually accessing information through one form or another, through platform and so forth. If we see that the acceleration in that country in Africa is actually going faster, then that's the third thing. If we have the intersection of these 3 things, this is where we believe at MDIIF for the future, we can fund the human right of having unbiased quality information, for whether it's in Africa, whether it's in Asia, whether it's in Latin America.
Thank you. Sorry, I was a little long. Give the microphone to Tony Iredia. You used to be general director of the public television of Nigeria. And we have a big discussion in Switzerland about financing public TV. So can you explain us how public TV is financed? What is the business model of the public TV in Nigeria?
Thank you very much. In Nigeria, I've had the experience of running the nation's broadcaster, public broadcaster, the Nigerian Television Authority, which claims 3/4 of the total number of television stations in the country. It's a very large organization. Nigeria has 36 states, and there is a station in each state. Then there are about one or two stations, depending on the size of a state, in the senatorial districts, which gives us about a target of 101 stations. So at the time I was leaving office, I had successfully built 68 of those stations. There were 68 stations when I was leaving office. I assume that it must have increased now.
And all these stations under the umbrella of the public television?
Yes, yes. So you have that is a federal controlled television station which branches in the states of the federation. Right. And our greatest source of revenue was government subvention. The government gave yearly subvention to the organization to run it. And this was usually prepared during the budget session, and it's approved by parliament, and then the budget comes to the organization. The history is a bit funny. When we were starting, we got everything we wanted because at that time, competition was not even there. And government didn't really have too much of demands as we have today. So we had a lot of money at the beginning, and so we didn't really emphasize marketing. In fact, we had a small commercial unit which merely collected adverts from those who cared to want to be advertised. But today, we run after people, and so it's no longer commercial, but marketing. That's aggressive sales and collection of revenue for use for the organization. So our main source of revenue is subvention. The second one is advertisement. Now, the third one is contribution by the states where the stations are located. The state governments help the stations in their states. So, and some of them do it in form of another set of subvention. Some just ask, what is it that we can do for you? And we say, we need this, we need this, we need this, and then they give. Because the station belongs to federal but covers the state where it is located. Its duty is to cover the state where it is located. So that at the end of the day, you can have a network that beams an average coverage of the entire nation. When you hear from this state, you hear from this state, and so on and so forth. You have a great production at the tail end, which comes from here and there. Then we have co-productions, which we produce with other people, and some revenues are generated through co-productions. In Nigeria, we have the Broadcasting Organizations of Nigeria, which is a collection of all the broadcast stations, both federal, state, and private, because from 1992, Nigeria opened the way for private ownership of broadcasting. So we now have private television as well as private radio. And so we come together when there's a big event, like All Africa Games, something like that. We pool resources from all over the states by the Broadcasting Organizations of Nigeria. And that is jointly produced, and revenue accruing to the body is shared to all members of the body. So that's another source. Then we have, what I would call contributions from other bodies like the World Bank. The World Bank, for example, is responsible for providing the funding, 75% of the funding for our educational television service, which produces and transmits programs for children, all right, in Lagos. And it's a network program that's received all over the country. Then we have renting of
facilities. And this program is independent from the government. This educational program.
Yes, it is. It is. As a matter of fact, at a point, the National Open University of Nigeria just started, and they were looking for how to transmit their programs, and they went to government, and government wanted to give them the educational television branch of the NTA. Mm-hmm. I had to remind the government that the project belongs to the World Bank. And as soon as the government heard that, they hands off. So the government only has 25% of it. Mm-hmm. Now, we also, like I said, because of high demands now, we become innovative, trying to generate revenue from every source. We also have something like renting of facilities, right? We have the outside broadcast vans. The NTA has about 12 of them. So when there's a big event that does not really concern us, the smaller stations come to rent those productions from us. And you may think it's small, but we get quite a lot of money from it. Then we have a limited liability company incorporated to manage the businesses of the television station. It is called the NTA Television Enterprises Limited. It raises revenue and does all kinds of businesses for the benefit of the organization. One of the advantages is that, unlike the public broadcaster that is sometimes placed under some bureaucracy, being a limited liability company, the body goes ahead and does what it likes and gets the revenue. Whereas if I was trying to do exactly the same thing, I will need to get some permission from government to do certain things. I will even need to get permission to travel out and all of that. But the limited liability company does all of this on our behalf and then pays a particular percentage of its revenue to the organization. So with all this thing, we have been able to sustain the stations. One of the innovations, which I think maybe some of us may know about, but we have not practiced it, which I want to introduce, is what we call the barter transactions. Now, I have money for buying some facilities, but they're not enough. And I look at what facilities do I don't really have to pay for. And I go to a vehicle company, and I do a barter with them. They give me 4 or 5 cars, and I give them advertisement. Hmm. Right? And so by so doing, I've already bought 4 or 5 cars without touching the revenue that's in cash. So that helped to do that. But in terms of viability, really, looking at this topic, I think that I need to talk about a few of the challenges that we have. Because of the fact that our major revenue is subvention, the issue of who pays the piper dictates the tune comes in. The owner does certain things at times that compromises your ability to dispense the resources. Like, for example, the subvention may not be regular. It might still come, but it will not come at the right time. So you see that salaries are due and the subvention hasn't come. You can't pay salaries. The workers are restive and you are having problems with labor union. And so you have a major challenge in managing finances that are supposedly yours, which had been written and approved by parliament and so on and so forth. So that's a major challenge, irregular subvention. And as I said, ownership control. In Nigeria, the ownership control we talk about is not really about the president, for example. It's about some small people in the corridors of power who are the intermediaries between you and government. And sometimes you find them bringing to you materials that should normally be advertisement, and they want you to put it in the news. So, one, they don't pay. Two, so they show to people that they are very powerful, and so that, so you have that problem. And so sometimes there is the issue of training. We want to develop our staff. So we spend quite a lot of money on training. In my time, 5% of total personnel cost was dedicated to training. But beyond that, we had structures which government put in place at the time when we were like the preferred child. And we had a television college in a place called Jos in Plateau State. In my time, I upgraded it to a degree awarding university. And the advantage is that, unlike the universities, it has facilities. It has the satellite, it has the transmitters, it has all those things. So people who go there really have advantage. And when it comes to employment, we are more anxious to pick somebody who has had training from the NTA Television College, because the argument today about theory and practice does not even arise. If you have gone to NTA Television College, you are as good as somebody who is within, because you learn all the things that you will eventually do. So we've had that, and we've had the seminars, workshops, and all that. But the main challenge is that the young people of today are so much in a hurry about life. I don't know whether it is so in other parts of the world, but my experience is that young people are always in a hurry. They graduate today, tomorrow they want to have a car, they want to have this, they want... So you send them to training. Rather than go for the training, they are more interested in the allowances that accompany the training rather than the content of the training. So at the end of the day, really, you cannot convince yourself that you have trained those who you think you have trained. So, and that's a major challenge. And once people are not properly trained, it becomes difficult to have a succession plan for leadership. It becomes difficult to have persons who have adequate expertise in running some of the things that we have. New technologies that come that you expect that those who have just come back from training will be able to work upon, they are not able to work upon it because they never really concentrated. They are either trying to claim the allowances, or they are going around the town where the conference is holding in search of new things, exhibitions and Swiss products and all that, wherever you can find them. So that's a major challenge. The solution I tried to offer before I left that service was to insist that anybody who went on training must train somebody else. So the training became a train-the-trainer kind of course. So you go to training, you come back, you write your report, and then we organize the training within, and you are the resource person because you have gone to training. So you have to train the rest of us. And that somehow encouraged people to face the training.
Thank you. I will come back to you. Right. Let's speak, Mr. Kouv. Can you introduce yourself and tell us what is SAMHSA.fr?
Alors, je vais le faire en français.
Oui, s'il vous plaît, oui.
Et expliquer que peut-être mon intervention va être en fait à cheval entre celle de ce matin sur la formation et celle de cet après-midi sur la question du financement. Pour me présenter, j'ai été pendant des années, 20 ans, journaliste. J'ai passé notamment beaucoup de temps à RFI, où j'ai fait différentes choses, mais notamment à partir de l'an 2000, j'ai dirigé la rédaction internet de ce média.
RFI, c'est
Radio France Internationale.
Ouais. C'est la chaîne qui est aussi écoutée en Afrique.
Beaucoup en Afrique francophone, en Afrique anglophone aussi. C'est l'équivalent de BBC World Service en quelque sorte, mais dans une version française. En prenant la direction de cette rédaction internet en l'an 2000, mes confrères m'ont regardé d'un air compatissant et désespéré en me demandant ce que j'allais faire à l'informatique. Pour eux, c'était clairement un espace qui n'était pas journalistique, c'était des tuyaux seulement dans lesquels on envoyait le contenu, mais ça n'était pas internet, un endroit où on pouvait pratiquer spécifiquement du journalisme. Je pense que la suite des événements a parlé et a apporté la réponse à cette question. Mais donc, depuis ce temps-là, moi, je suis principalement un journaliste digital. Après avoir dirigé cette rédaction Internet, je suis repassé du côté de la radio, toujours Radio France Internationale, où j'ai essayé de mettre de l'Internet dans la radio. Et j'ai créé en 2007... on va dire une émission, parce que c'est plus facile d'appeler ça une émission, mais en tout cas un programme qui s'appelle l'Atelier des médias, qui existe toujours, je n'en suis plus le responsable, mais ça existe toujours, et qui mêle à la fois une émission de radio hebdomadaire, un réseau social, et plusieurs même réseaux sociaux, et également sur lequel on a greffé une plateforme de blog qui accueille aujourd'hui environ 600 personnes, et donc je vais vous dire un mot dans un instant. Remettez-vous dans le contexte. Aujourd'hui, tout le monde qui fait une émission de radio ou de télévision l'a fait avec Twitter, avec Facebook. En 2007, qui faisait une émission de radio ou de télévision avec Twitter ou avec Facebook ? En France, personne. Et en Afrique francophone, personne. Et tout le monde me disait là, mais attends, mais Internet, c'est pas fait pour l'Afrique, ils ont pas la connexion, etc. Et très vite, on a pu rentrer en contact avec une nouvelle génération africaine qui avait envie de faire les choses. Et là encore, je vais en reparler dans un instant. Lorsque on faisait ça, moi j'avais une expérience préalable d'assurer des formations pour des journalistes en Afrique. Et je me souviens spécifiquement d'une expérience très particulière au Mali, où je suis arrivé pour délivrer cette formation, et c'était des gens que Tony a décrit, ils étaient là pour le per diem, le allowance qui va avec le training, et seulement pour ça. Et lorsque je faisais la formation, je voyais bien qu'ils n'étaient pas intéressés. Et quand on faisait la pause, qu'on allait dans la cour, il y avait plein de jeunes qui étaient là et qui venaient me voir et qui me disaient « Mais comment on fait pour être sur Internet? Comment est-ce que ça marche? Est-ce que tu peux nous expliquer ?» Et je n'avais pas le temps pendant la pause d'expliquer. Mais donc, le soir, on se retrouvait, je leur avais donné rendez-vous au cybercafé d'à côté et on a fait une formation clandestine pour eux dans le cybercafé d'à côté. Et là, j'ai eu l'impression très nette que la formation officielle que je faisais, peut-être 10% des choses que je disais étaient utiles pour les gens que j'avais en face de moi. En revanche, la formation clandestine qu'on a fait dans le cybercafé, je pense que 200% a été utile. Ils ont tout pris et même plus que ce que j'ai pu donner. Ils s'en sont servis beaucoup. Ça nous a... On a été plusieurs, avec notamment un journaliste congolais qui a travaillé pour Radio Okapi, qui s'appelle Cédric Kalonji, et qui avait eu cette expérience aussi de travailler en ligne avec des jeunes journalistes. On a monté cette plateforme de blog qui s'appelle Mondoblog, et là l'idée c'était de proposer aux gens de postuler en ligne, de faire une demande en ligne et de motiver cette demande. Ensuite, on les accompagnait en ligne pour leur apprendre à bloguer, à écrire un titre, à insérer des photos, des vidéos correctement, à construire leurs articles de manière simple, compréhensible, accessible, etc. Pendant 6 mois, on les a accompagnés en ligne. Sur la première saison, entre les 100 premiers qui étaient retenus et au bout de 6 mois, il n'y en avait plus que 40. Mais ces 40-là, lorsqu'on les a réunis et lorsqu'on a fait ensuite une formation en présentiel, une qui a eu lieu à Dakar et une qui a eu lieu à Yaoundé au Cameroun, on était sûr qu'on avait les bonnes personnes en face de nous parce qu'ils avaient montré qu'ils étaient motivés, qu'ils avaient envie, qu'ils avaient des qualités pour ça. Depuis, alors moi depuis j'ai quitté RFI, donc je ne m'en occupe plus, mais ce programme continue et aujourd'hui il y a environ 600 blogueurs sur cette plateforme. Tous ne sont pas journalistes, tous n'ont pas vocation à être journalistes parce que ce n'était pas un projet journalistique d'abord, c'était un projet visant à donner les moyens à ceux qui sont sur le terrain de parler en leur propre nom et pas que quelqu'un, de préférence blanc et venu d'ailleurs,
alors, deux questions à ce sujet. De quoi vivaient ces blogueurs? Est-ce que vous les avez engagés, par exemple? Et sur quoi ils ont blogué? C'était des blogs politiques ou simplement des histoires de vacances ou de quels produits suisses ils ont achetés, comme disait notre collègue?
Alors, on ne les payait pas. Et ça, je pense que c'est très important dans les formations, ne pas payer les gens pour qu'ils viennent pour des raisons liées à l'objectif de la formation et pas à d'autres questions. Et quant à savoir sur quoi ils ont blogué sur tout. Ils ont blogué sur la politique, ils nous ont raconté leur quartier, ils ont parlé d'homosexualité, ils ont parlé de ce qui se passe en France, en Europe, aux États-Unis. Ils ont parlé de tous les sujets qu'ils considéraient comme importants. Certains ont fait acte de journalisme, d'autres plutôt dans le domaine littéraire, d'autres plutôt dans différents domaines. Enfin, vous pouvez y aller, c'est mondoblog.org, c'est en français seulement, c'est une plateforme francophone, mais vous pouvez voir tout ce qui s'écrit là, tout ce qui se raconte là, sur l'Afrique et sur le monde, par des gens qui sont en Afrique. Je passe rapidement, ensuite moi j'ai quitté RFI, j'ai monté donc samsa.fr, qui aujourd'hui est une petite société qui fait beaucoup de formations, qui accompagne les médias en France, en Belgique aussi, pour, notamment sur tous les enjeux digitaux. Et on continue d'avoir un certain nombre de projets en Afrique. L'un d'entre eux est un projet qu'on mène avec CFI, qui est l'Agence française de coopération média. J'ai imaginé ce projet pour eux, un projet qu'on mène avec des partenaires que sont Le Monde Afrique, que sont l'AFP, par exemple. Ça s'appelle Afrique Innovation. Et il s'agit d'aider un certain nombre de personnes en Afrique à aller sur le terrain de l'innovation dans le domaine des médias pour inventer les produits et services d'information, non pas de demain, mais d'aujourd'hui. On a fait ça délibérément en ne s'appuyant pas sur les structures existantes. L'idée est d'aller chercher des gens de cette jeune génération qui sont très sensibles à la question des usages du mobile, qui sont très sensibles à la question de la diffusion de l'information également, on va dire avec des guillemets, citoyenne, c'est-à-dire qui n'est pas seulement uniquement produite par des journalistes estampillés comme tels, mais qui peut être produite selon différentes modalités. Et l'idée est d'aller chercher ces gens-là et de leur proposer, de les accompagner dans une démarche qui consiste à la fois à être formé et ensuite, au-delà de la formation, à innover. Alors ça s'est traduit, ce programme, par une série de hackathons, alors donc ces petits marathons d'innovation média qui durent le temps d'un week-end, qu'on a organisé à Abidjan, à Dakar, à Douala, à Antananarive, et puis là, très récemment, à Casablanca, à Alger et à Tunis, pour sensibiliser un petit peu les gens sur ces questions. Parallèlement, il y a eu un MOOC, donc un dispositif de formation à distance qui a été lancé de 12 semaines avec deux cursus en parallèle. Un cursus pour des journalistes web et un cursus pour des développeurs web et mobile, donc plutôt technique. Là, on arrive au terme de ces 12 semaines. On a environ 250 personnes qui sont allées jusqu'au bout de ces 12 semaines. Donc là aussi, on peut certifier dès aujourd'hui, et moi je peux vous le signer, que ceux-là, c'est des gens sur qui on peut investir maintenant en termes de formation, au-delà de simplement ces 12 semaines, parce qu'ils ont fait preuve de la motivation. Mais on va faire autrement, on va les accompagner maintenant, les aider à mettre en place, en tout cas rédiger des projets d'innovation média, qu'on va aller porter à un concours que Code for Africa, et Antoine Laurent était là tout à l'heure, je ne vois plus, a imaginé. On a fait un partenariat entre ce programme et Code for Africa. Et donc, au terme de ce concours, qui lui va être panafricain, et qui va être lancé là, dans les prochains jours ou dans les deux prochaines semaines, une vingtaine de projets seront récompensés au terme du concours et se partageront une dotation globale $1 million et bénéficieront d'un accompagnement d'un an avec des mentors internationaux pour développer leur projet. Certains développeront leur projet à la manière de start-up de manière tout à fait autonome, mais d'autres pourront aussi être repris par des médias qui voudront les incorporer et se servir de cette énergie et de ce savoir-faire pour développer de nouvelles choses. Pour conclure, parce que j'ai déjà été trop long, grosso modo, aujourd'hui, on ne sait pas en Europe ni sur le continent nord-américain, on parlait de sustainability ce matin, qu'est-ce qui fait qu'un média est sustainable aujourd'hui dans nos contextes ? Moi, je ne vois pas comment j'irais dire aujourd'hui à quiconque en Afrique, voilà ce qu'il faut faire pour être sustainable. En revanche, ce qu'on essaye de faire, c'est de donner les moyens, le savoir-faire, un certain nombre d'outils pour savoir créer, savoir inventer, à charge pour eux d'inventer le contenu qui va avec et le modèle économique qui va avec, qui ne sera pas nécessairement le même que ceux qui prévalent ici.
Ouais. Alors, M. Bellêtre, on vous connaît déjà. Au cours de ces discussions, et puis aussi au cours de la pause, je me suis rendu compte que quand on parle de financement des médias, du média développement en Afrique, il faut peut-être distinguer entre les pays en crise en changement. Et puis des pays qui sont déjà hautement développés en ce qui concerne les médias, n'est-ce pas? Donc, si on mélange les deux, on risque de ne pas être très clair. Parce que quand j'entends comment le Nigeria est développé, il y a une scène médiatique très établie. Je ne pense pas qu'ils ont besoin d'aide pour développer leurs médias. Et puis le Ghana aussi, il a des conglomérats de médias très forts qui marchent. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez apporté beaucoup de chiffres chiffres très intéressants, mais est-ce qu'il faut faire cette distinction pour continuer la discussion?
Quelques chiffres, effectivement, ce matin. Mais effectivement, souvent, nos clients nous posent la question. Et souvent des médias africains donc nous disent bon déjà on veut tous les chiffres gratuits là, tu nous les envoies tout de suite. Alors on dit bah attendez, il y a une partie qui est payante, une partie qui est gratuite. Mais, bon, il y a les newsletters, on fait les newsletters gratuites.
Vous relevez ces chiffres au nom de qui?
En fait, nous on a trois activités. Donc on produit des newsletters. Donc ça c'est de l'agrégation de contenu principalement. Et également on relaie des messages, des communiqués, des annonces que veulent faire les médias, etc. Donc sur deux secteurs, l'audiovisuel en Afrique et les télécoms et l'informatique en Afrique.
Mais vous êtes une ONG ou bien vous êtes une agence
On est complètement indépendant, privé.
Mais qui vous paye?
Donc c'est des clients, donc c'est à la fois des médias et des opérateurs télécoms, des sociétés informatiques.
Donc vous réussissez quand même à les vendre, ces chiffres.
Voilà, donc après on donne ces newsletters gratuitement et ensuite on produit régulièrement des rapports qui sont eux payants, qui sont bon, pas forcément des prix à l'américaine ou qui sont pratiqués en Europe. Donc on essaie de faire des prix aussi un peu adaptés au budget de l'Afrique, qui ne sont pas toujours dans les mêmes proportions. Et puis surtout, en fait, on gagne notre vie avec des études sur mesure, des accompagnements, etc. Donc, quand on parlait tout à l'heure, Robert évoquait l'affaire de la stratégie. Et effectivement, vous évoquez également les pays. Et on peut même parler de villes, puisque c'est là où les investissements vont. Donc, on peut même regarder les villes les plus importantes en Afrique. C'est généralement les villes vers lesquelles les investisseurs se tournent et vers lesquelles on les aiguille. Et effectivement, on peut dire qu'il y a... qu'il y a deux Afriques, entre guillemets, voire trois Afriques, parce qu'on peut dire également qu'il y a l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, il y a une petite distinction, et également des pays qui sont en très forte croissance et des pays qui sont un petit peu à la traîne. Donc dans les pays anglophones, effectivement, c'est toujours l'Afrique du Sud, le Nigeria qui reviennent en premier plan, Kenya, Ghana, etc., Ouganda, dans beaucoup de cas, Tanzanie. Et puis en Afrique francophone, on met toujours en avant Côte d'Ivoire, Sénégal, maintenant Mali qui est un petit peu sous les projecteurs, etc. Donc effectivement, c'est les villes et c'est des pays, on peut différencier les pays. Et puis après, il y a les communautés, les langues, etc., qui peuvent être partagées sur plusieurs pays. Et alors de la part des médias, donc si on revient sur cette stratégie, nous on a des requêtes aussi bien sur le financement, effectivement, et je crois que le monsieur de la NTA a rappelé un petit peu les sources potentielles de revenus. Il y en a quelques autres. Il y a maintenant, on peut dire, la VOD, on va voir ce que ça donne, mais ça peut être éventuellement une source de revenus en s'associant avec un opérateur mobile ou des choses comme ça. Donc nous on aiguille un petit peu vers ces modèles de financement. Et puis, il y a toute la partie formation, effectivement, technique qui a été évoquée. On nous demande régulièrement, envoyez-nous un technicien et tout. Je l'accueille, je le loge, je m'en occupe, on le protège. Il nous refait tous les fils, etc. Là, ça ne va pas du tout. On nous a livré du matériel. Mais pour que les techniciens reviennent le brancher et que mes gens soient formés dessus, ça coûte encore très, très cher. On veut du moins cher, etc. Bon. Donc, on nous demande souvent aussi de nous envoyer vers des... de trouver des techniciens pour, par exemple, numériser toute la chaîne. Après, il y a toute la complexité de créer du contenu de qualité. Donc là, pareil, on peut trouver des auditeurs ou des gens comme ça qui améliorent la qualité du contenu. Voilà, donc généralement, c'est vers donc numérisation, formation technique Et évidemment, on parlait de formation ce matin encore, formation longue durée, un cursus d'un an, c'est assez compliqué pour beaucoup de professionnels africains. Ils préfèrent que les gens viennent sur place et qu'ils forment très très vite, en quelques jours, ou alors sur une petite période, mais ils préfèrent évidemment sur place plutôt qu'envoyer quelqu'un en Europe, aux États-Unis, etc. Donc voilà un petit peu les requêtes qu'on perçoit. Et quand je regarde les gros organismes, enfin les organismes qui accompagnent ces médias en Afrique, leur stratégie a changé, c'est-à-dire que maintenant effectivement ils se positionnent beaucoup plus sur la formation que par le passé, où parfois ils ont financé effectivement des radios, tout le matériel d'une radio ou d'un journal, etc. Maintenant les budgets ont été un petit peu resserrés, même au niveau de l'Union européenne, et on a tendance à se concentrer plus sur la formation, l'accompagnement dans les écoles et l'accompagnement des professionnels sur place.
Si je vous ai bien compris, M. Schneider, donc il y a deux sortes d'investissements en Afrique. Il y a les investissements qui ont un intérêt commercial, donc les grandes compagnies de téléphonie européennes, les Chinois, etc. Vous favorisez, vous actez dans un domaine politique. Vous avez une ambition politique, c'est-à-dire vous voulez... votre but, c'est l'indépendance des médias, des médias indépendants qui sont aussi créateurs de démocratie, de plus de démocratie, etc. Est-ce que vous êtes seul dans ce domaine ou est-ce que vous voyez d'autres forces? Par exemple, est-ce qu'il y a des fondations américaines qui ont aussi ce but et puis qui essayent de s'insérer dans les médias africains?
If I may, I'll answer that in French.
Yes,
I'm just warning the.
You understood.
D'abord, deux choses. La première, c'est que j'ai un souci avec le mot politique, parce qu'en fait, le prémisse de Media Development Loan Fund, c'est que l'actionnariat, c'est-à-dire le capital, très souvent, vient avec des liens attachés. Et l'objectif, pour nous, c'est de financer des hommes et des femmes qui créent, sur le plan privé, leur société, qui n'est ni attaché à un parti politique, ni attaché à un gouvernement. Je soulignerai en passant que les 100 dernières années des démocraties occidentales ont bénéficié de ce détachement, nous tous ici, d'avoir des organes de presse qui ne soient pas attachés au gouvernement. Donc le mot politique, je le suis. Mais c'est tout à fait de la façon dont vous l'avez décrit. Nous n'investissons jamais dans une société de presse ou de télé ou de radio qui soit liée à un gouvernement ou à un parti, qui ait un agenda ethnique, religieux. C'est le due diligence qui se fait. Peut-être dans ce sens-là, vous avez raison, il y a un côté un peu politique, mais pas vraiment. L'objectif, c'est d'être apolitique et de laisser des hommes et des femmes dans leur pays fournir l'information dénuée de tout intérêt commercial ou politique, justement, des gouvernements. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous me disiez, la deuxième partie de votre question, c'était sur qu'il y avait deux types de...
Justement. S'il y en a d'autres qui font ça.
Non, malheureusement...
Des fonds américains ou d'autres qui sont des promoteurs de la démocratie.
C'est une bonne question. Non, nous sommes les seuls, malgré... Dans le monde du media development, nous sommes les seuls. Et vous m'envoyez chagriné parce que nous avons essayé d'aider deux autres fonds à fonctionner, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique... non, pas du Sud, mais la Southern Africa. Et ça, nous en sommes chagrinés, peut-être parce que, certes, j'étais journaliste, mais j'étais aussi dans les affaires, médias. La concurrence, c'est toujours une bonne chose. Il y a peu de gens. Ouais. Mais oui, nous sommes les seuls. Ouais.
Et comment vous contrôlez ? Alors, ce que je n'ai pas tout à fait compris, donc indépendants d'intérêts commerciaux, donc ils font pas des commercials dans leurs médias, ceux que vous soutenez. Ils n'ont pas d'advertisement.
Absolument, non, ils ont.
Absolument. Donc là, ils dépensent quand même.
C'est une opération commerciale.
Ouais. Et comment privée. Vous contrôlez alors? Comment vous contrôlez toutes ces stations que vous avez financées? Est-ce que vous faites, vous regardez les programmes, pour vérifier s'ils sont vraiment indépendants, s'ils sont vraiment pas des sous-marins d'une religion Absolument. Ou d'un mouvement politique?
Le premier point, c'est que notre conseil d'administration sont essentiellement des journalistes et des human rights activists, Ce sont des activistes des droits humains. Nous avons un banquier sur 9 gens sur notre board. Nous avons des gens comme Arié Naier, qui est le fondateur de Human Rights Watch, ce genre de personnage. Ah, ouais. Donc ça commence par le board. Ça commence par le board de dire, est-ce que vous pouvez aller au Zimbabwe ? Oui, puisque nous investissons environ 15 millions de dollars par année. Vous savez, 15 millions de dollars devant le problème de l'indépendance de la presse dans le monde, c'est rien, c'est absolument rien. Donc il faut choisir. Donc le board nous dit oui, c'est l'année, c'est fini la Hongrie, il faut retourner en Hongrie, comme vous le savez. Donc le board. Le deuxième, c'est que nous n'investissons jamais, jusqu'à présent, nous n'investissions jamais dans les startups. Pourquoi ? Parce que ça nous permet, on veut voir ce que vous avez publié, écrit ou broadcasté pendant 2 ans. Ça nous permet de faire un contrôle, de voir s'il n'y a pas eu les... Troisièmement, il y a 9 critères que je ne vais pas vous embêter. Il y a 9 critères que le board utilise pour calculer l'indépendance. J'en ai parlé un petit peu. Vous adhérez à l'article 19. Vous n'avez aucune affiliation ethnique, politique, religieuse, et ainsi de suite. C'est le due diligence. Quand nous arrivons dans un pays avec les gens locaux, nous, vous savez, c'est facile à savoir. Hein, si quelqu'un a un lien dans cela. On a ces 9 critères, mais vous savez, ce qui fonctionne, la partie la plus importante dans notre façon d'établir l'indépendance de médias, c'est 20 ans. C'est 20 ans d'un board qui fait cela. Et on a essayé souvent de nous présenter les beaux yeux en disant oui, et ceci. Mais là, on est connu et on commence à savoir un petit peu quand les gens... Le dernier point qui est très important, c'est comme je vous fais un prêt ou une participation, dans nos contrats, il est écrit précisément que s'il y a une nature substantielle du changement de votre contenu, c'est breach of contract. C'est-à-dire que le contrat est, comment on dit, breach of contract,
ouais.
Rompu. Ouais. Ce qui permet que si vous me faites les beaux yeux pour me dire « je serai indépendant, mais je vais changer », vous regardez le contrat et dites « non merci, je ne peux pas ». En revanche, si vous êtes un homme ou une femme qui depuis 10 ans essaie de publier de l'indépendance, de l'édition indépendante, mais avait un problème au niveau financier, au niveau du media management de votre société, et vous nous voyez, tout de suite, la géométrie, comme on dit en voile, fonctionne immédiatement. C'est-à-dire « ah, là on se comprend ».
Ouais. Voilà. Alors, je vais ouvrir le débat à la salle, s'il y a des statements ou des questions. Juste une petite question technique. Vous financez ces médias avec quel montant, quelle proportion de leur budget? Vous allez jusqu'à 20%, jusqu'à 50%, sur 40%?
Alors, il y a deux façons. D'abord, avec les prêts, ce que l'on a fait depuis 20 ans. Alors, dans ce cas-là, c'est tout simplement en fonction d'un business plan. On s'assoit avec l'éditeur ou l'éditrice ou le broadcaster et on fait un business plan. Et là, ça peut monter entre 1,5 million jusqu'à 3 à 5 millions de dollars. Donc, entre...
Par station, mais ça fait combien sur leur budget?
Ça dépend.
C'est toujours très minoritaire par rapport à leur...
Mais là, vous parlez de participation. Moi, je vous parle de prêt. Donc, de prêt, ça ne correspond... Ça dépend. Si c'est une rotative, très souvent une rotative, ce que nous ne faisons plus, une rotative va probablement aller jusqu'à 30% de leur budget. Mais ça, ce sont des prêts. Okay. La participation, pour répondre à votre question, toujours minoritaire. Nous ne prenons jamais action majoritaire dans les...
Okay.
Dans les...
Très bien. Il y a une question. Il y a d'abord là, vous étiez le premier, et après, ici. Ouais. Il y a un micro... Est-ce que le micro peut se promener ?
C'est où ?
My question is for Patrice. You said you're actually doing work in Nigeria. Can you actually provide specific example of the media outlet that you are funding in Nigeria and why you are funding those media outlets?
Well, je parle en anglais. Nigeria is a very interesting country. We've just entered a few years ago. And to do so, I have to contradict myself because actually we've started since 3 years. I was talking earlier that the business model of independent media is being under attack here, in Asia, in Africa, and in Nigeria, right? That's being challenged. So 3 years ago, we created a fund, a $3 million fund, to invest in digital news natives, companies that come from the journalistic tissue but actually don't have a printing press, don't have a TV station, don't have a radio station, but do a very good job in news information and public debate on the online, digital news native. And our investment there is Sahara Reporters, which we feel is one of the beacon of investigative journalism in Africa, not just Nigeria. The courage that they show, and they're also close to profitability. As a digital news outlet.
Ah.
As a digital news outlet. So they are showing the West. Mm-hmm. It's not high margins, it's not high volume, mm-hmm. but they're actually showing the North mm-hmm. that it is actually possible in a country like Nigeria to show some form of profitability.
If I were to follow up on that, based on your criteria model, and the fact that you said, you know, when you are in the country, you speak to the people.
Yes.
Some Nigerians, well, quite a number of Nigerians, will actually argue that Sarara Reporter is actually indirectly affiliated with the opposition party, which is actually now the party in power.
Yes. Well, you know, that's an ongoing, we could have a discussion for an hour on this. Mm-hmm. But one thing is true, is that what we do look very much, we had the problem in Georgia, where we, first of all, typically, most of our portfolio, the 51 clients, are all said they're opposition because they go against the power. The real proof of concept, including in places like Zimbabwe, when Mr. Mugabe decided to die, our newspaper, Newsday, saying that Mr. Tsvangirai may not be the solution. And he's being hit by both development agencies saying, why aren't you supporting, he's been put in jail because of Mr. Mugabe, but why aren't you supporting Mr. Tsvangirai? And they've asked me that. I'm not responsible. I'm not risking my life in Zimbabwe. But they ask me that. I say, that's the job. That's his job or her job. Not Tsvangirai, not Mugabe. If they believe this is not the right solution. Sahara Reporter, let's see what happens in the next election. Because there's always this honeymoon where the opposition, when they get to power, will love Sahara Reporter. But I suspect that they won't like Sahara Reporter after 6 months being in power because that's the nature of democracy.
Yeah.
Sorry.
We have a question here. First here.
Let me give you the microphone.
And then you can intervene because we had first here.
Encore une question à Monsieur Patrice Schneider. Je voulais vous demander, vous avez cité en Afrique les pays où vous faites des investissements. Vous n'avez pas cité de pays qui sont dans des graves troubles, que ce soit des conflits armés ou des épidémies, je pense à Ebola, RDC, Centrafrique, Guinée-Conakry. Pourquoi ? Vous pensez que ça ne sert à rien, que c'est de l'argent jeté par la fenêtre ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je mentionnais tout à l'heure la conversation que nous avons plusieurs années avec Hirondelle et Jean-Marie et moi, avant ça, on a souvent discuté. Je crois que l'aide aux médias, développement au niveau du monde, c'est une sorte de bell curve, c'est une sorte de courbe gaussienne où je crois il y a certains outils qui fonctionnent. Dans notre cas, on ne fonctionne pas en Iran, en Afghanistan, probablement pas, alors qu'en DRC, il faudrait... Je crois que Jean-Marie a peut-être des choses à dire qu'on devrait. Mais en tout cas, en Irak et en Afghanistan, nous ne fonctionnons pas là. Pourquoi ? Parce que malgré l'immense nécessité d'avoir une information de qualité, c'est là qu'on se rejoint. Mais l'outil utilisé n'est pas le même. Dans le cas de l'Iran, les droits commerciaux n'est pas soutenu. Il n'y a aucune façon de rentrer. Puis il y a le développement du marché. On en parlait tout à l'heure dans la session précédente. Je crois que, à tort ou à raison, nous, on essaie de se concentrer. C'est une discussion en permanence avec le board en disant, avec 15 millions de dollars, est-ce que cet outil est applicable à l'Irak ou il est plutôt applicable au Lesotho actuellement ? Donc, et je dirais que la Fondation Hirondelle et d'autres acteurs, mais surtout la Fondation Hirondelle, est nécessaire dans ces pays volatiles. Et j'espère qu'un jour... Une fois que le pays sortira de cette situation et que les conditions dont je disais, ils peuvent passer à notre outil. Ça, c'est un souhait. Et je crois qu'il y a eu quelques cas où ça a eu lieu.
S'il vous plaît.
Répondu à votre question ?
Ouais. Oui.
C'est pas le bon outil.
Oui. Dit, voilà. Non, mais je me demandais, par exemple, un pays comme la Guinée-Conakry. Bon, il y a des problèmes là-bas, hein, mais c'est peut-être un niveau de conflit armé. C'est pas la Centrafrique, c'est pas la RDC non plus. Il y a eu cette épidémie de Ebola, où le manque d'informations a aggravé la situation là-bas. Donc, c'est pas là on pourrait intervenir, pas nécessairement dans une situation de conflit, mais dans une crise sanitaire.
Je crois, comme personne, comme human being, je ne crois que les contrats, enfin dire le prêt, les investissements ne sont pas pour ces situations. Il y a des situations de crise humanitaire, elle doit être adressée par quiconque, je ne veux pas rentrer dans cette discussion, selon un modèle humanitaire et non pas un modèle financier. Personne.
OK. Là-bas.
I need some clarifications from you. First of all, when you say we finance, what does it mean in the first place? Do you give them loans? What's the rate of payment? Are they gifts? And what did you give to Sahara Reporters up until now?
The answer is double. We either give debt loans. The interest rate across the board in our portfolio is between 2 and 9%. The reason is because in some countries we don't want to break the market, but the objective is to have affordable financing for independent media. So loan. In the case of equity, we just take equity. We give them money in exchange for less than the minority of their organization. And no, they're not gifts.
But why haven't you financed any projects in Ghana so far?
Ah, don't get me started on Ghana. Ghana is a great example. We almost did, which I can't disclose here. But that would have been I think Ghana is a very interesting, specifically in what I've described earlier in my very long three cruxes of digital disruption, mass consumption growing, and political liberalization. I think Ghana has written all over it.
So,
but I can discuss this with privately if you want.
There you will get a return on investment.
No, we didn't do it.
Ah, okay.
I wish we had.
There is a question, and then here, and then we have to go.
Yes. Sahara Reporters. You haven't answered how much you've financed so far, Sahara Reporters.
Allow me to pick my banker's hat. And there are things that I don't disclose. I don't think it would be fair for me to disclose that information.
Yeah. There, a microphone for Jan. And then here, huh? Après ici, Monsieur Donald.
My name is Emmanuel Lugarendoka from Vassava, Oklahoma in the USA. My question is to Mr. Patrice. How does the Sahara Reporter you sponsor help the development of media in Africa? The Sahara Reporter you sponsor, how does it help the development of media in Africa since the diaspora media company?
If I understand your question, is how does it help?
Yes.
I think it's a beacon. I think it really serves the Nigerian population. I will speak under the control of my Nigerian colleagues here. But it really serves the Nigerian population. They have an office in New York also. But I think that by not being fearsome of going after oil abuse in Nigeria in terms of politics and reform, I think it's a Nigerian issue, but I think it sends a message. For us, this is very important. We are very often criticized that why do you go to Nigeria and only invest in one? Why do you go to Guatemala and only invest in one? Why don't you spread that investment across Guatemala? Well, first of all, because the model functioned better if we identified that man or woman who's capable of going from independent media to an entrepreneur and keep the flame of independent media together. So we don't find a lot, we find one. But the second reason relates to your question, is that it's if they can become self-sustainable in providing accountability and a watchdog function towards the government, it sends a message that it's possible to the other men and women. And I would argue that people like Sahara Reporters, it's serving Nigeria, really, but it sends a message to the rest of the other countries that it is possible to maintain your editorial integrity and have be able to pay your journalists properly, to be able to not have strings attached, to have no one tell you what to provide, to publish. I think that in that sense, it does. And it's not just Sahara Reporter. I mean, a lot of our people in our African portfolio do the same thing. Mail and Guardian in South Africa, Newsday in Zimbabwe, The Independent in Zimbabwe, the Lesotho Post, Zambia Post in Zambia, and so forth. So it's not just about Sahara Reporter. It's a symbol.
Now, as a follow-up to my question, sir, in the case whereby you withdraw a sponsor, do you think it will still be independent by way of holding accountable to the government of Nigeria?
I'm sorry, I don't understand your question of sponsor.
I am saying that in a case whereby you withdraw a sponsorship from Sahara Reporter, do you think it will still be independent, to attack the government of Nigeria?
I don't have sponsorship of Sahara. It's a loan. It's a debt. It's credit. I'm not a sponsor of Sahara Reporter. But I will answer your question, is that the reason we chose Sahara Reporter, rightly or wrongly, is that the due diligence around this company was to make sure that they had at the best of our knowledge and our board, it has no link to the government. Now, if they started indeed towing the line of the government, then we'll have a conversation. And this goes back to the contract I've discussed. But we have no control over, no editorial control over our clients, including Sahara Africa. None.
Okay. Thank you.
La.
Merci. I have a question to Philippe Courault about the work you're doing. You have described how you support young people to get new ideas on digitalization and these kind of hackathons and things like that. Regarding the theme of the podium, which is financial stability and sustainability, regarding those hackathons and the things developed there, I remember having read a report about media in Kenya and a statement from Justine Ehrenstein, I think is working on the same track, in saying in a very self-critical manner, he has done that for 3-4 years, and now he says, well, we made people winning a lot of awards, international awards for social entrepreneurs, but nothing so far has taken root on the ground. So I'm asking myself, what is your relation? So you develop something new and fancy, and what is the relation, let's say, to traditional media? Or how does it then help a TV station, whether they are digital or analog or online, or how does it help a radio station to sustain or to gain, to achieve more sustainability? How is that relation from those young people to this other world, maybe?
Il n'y a pas de relation directe, mais je pense que ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe par exemple au Kenya, mais également ce qui se passe au Ghana ou ce qui se passe au Nigeria, dans le domaine des nouvelles technologies, la manière dont les médias se les approprient, il existe une scène, comme on pourrait dire, d'une scène artistique, etc., qui est suffisamment dense, où il y a suffisamment de personnes qui échangent, qui montent des projets, etc., pour que ça permette l'émergence de projets intéressants. Ce qu'on constate pour l'Afrique francophone, et moi, mes interventions concernent principalement l'Afrique francophone, c'est que pour l'instant, à quelques rares exceptions près, ces scènes-là ne sont pas assez densément peuplées. Donc, il n'y a pas assez de croisements, il n'y a pas assez de fertilisation, il n'y a pas assez de projets qui émergent. Votre question ensuite, c'est, une fois que ces projets émergent, comment est-ce qu'on leur permet de durer et éventuellement, comment est-ce qu'on les ramène dans le domaine des médias traditionnels? Ça, c'est la question qui vient après pour nous et effectivement, dans le cadre de ce programme, au-delà de la simple dotation qui va être attribuée à certains d'entre eux. L'idée, c'est d'aller aussi rencontrer des gens comme Patrice, mais aussi d'autres personnes, pour les faire entrer dans un programme d'entrepreneuriat, de manière à leur permettre de faire exister économiquement également leur projet. Maintenant, sur la dernière question, ou la dernière partie de la question, sur comment est-ce qu'on ramène aux médias traditionnels. Je vais être tout à fait catégorique, je m'en fous. Les médias traditionnels, s'ils ne se bougent pas les fesses, ils vont crever en Afrique comme ailleurs. Soyons bien clairs là-dessus. Et on n'en a pas parlé, mais la dernière fois qu'on s'est vu, ça remonte à quelques années, Patrice finançait beaucoup de rotatives et de choses comme ça, et aujourd'hui, il m'annonce que maintenant, ils ne font plus du tout ça. Il y restera de la place pour la radio, sans aucune contestation possible, en Afrique, en tout cas je le pense. Mais pour la presse écrite, c'est mort. Pour la télévision, ça va l'être bientôt. Parce que les gens vont regarder, il y a de la 3G, il y aura bientôt de la 4G, ils vont regarder d'autres programmes sur leurs écrans. Si on n'est pas capable de fournir ces programmes et de fournir tout ce qui va avec, ça ne sert à rien. Et moi, je n'ai pas vocation à pousser les corbillards de la presse qui va mourir. Je préfère inventer les gens qui, avec des difficultés, avec des tentatives qui n'aboutiront pas toutes, vont essayer de faire ces médias, non pas de demain, mais d'aujourd'hui déjà. C'est un volontiers provocateur ce que je dis, mais ouais. C'est pour insister sur le point d'où je parle, et qui est de dire, si on ne bouge pas aujourd'hui, mais c'est valable en Europe, mais je pense que tout le monde l'a à peu près compris, et en Amérique du Nord aussi, mais en revanche, en Afrique, je pense que c'est pas... Enfin, en Afrique francophone, pardon, voilà, je pense que c'est pas encore évident tout à fait pour tout le monde, alors qu'on voit bien, il suffit de se balader dans les rues de n'importe quelle ville pour voir que les modes d'accès à l'information ont déjà changé.
Tony Heredia, tell us... Yes, we have to stop. Oh, yes. There is a question from a student, please.
Avec le micro.
Micro. Il est arrêté.
Ah, c'est bon. Concernant les ressources humaines, comment celles-ci pourraient contribuer au développement des médias par rapport au financement, selon vous?
Question à qui?
Je ne sais pas, Monsieur Schneider.
C'est... Repeat the question, please, in English.
Je demandais, par rapport aux ressources humaines, comment celles-ci pourraient contribuer au développement des médias par rapport au financement.
Mais les ressources humaines de qui ?
Human capital.
Well, the question that she has asked is important to me because I was going to ask my colleague here a question because I was wondering whether if those of us this way can also ask questions. Because I've been in a discussion panel before and somebody raised this issue that the his firm, the investment people, you invest in media that attack government in Africa, in which case you are interested in developing adversarial journalism. You are not interested in encouraging developmental journalism. And that, to me, has its own problem, because if the media must develop, it must develop as a balanced entity that obeys the principles of balance and objectivity, which is what media is all about. But if you're looking for only those that can attack the government, then it's either you have a grudge with the government or you are encouraging adversarial journalism. And what would be your reason for that? So that was the question I was going to ask you. But she stimulated me because she's now saying that we're talking about capital. Is capital just fund? Capital doesn't have to be fund. You know, capital could be on material or human beings. There could be human capital. And we talk about human resources. My paper yesterday was talking about how to manage personnel who work in the media. What kind of management do you do? And that can be broken into two. Training is development of human capital, because if you train people, they become developed for the work. Another one is you motivate them. Because if you don't motivate a worker that you say you are developing, he's not likely going to develop. So I think the answer will be manpower development as well as human resource development and motivation to ensure that people have job satisfaction and get sufficient payback that can give them livelihood and be happy in the job they're doing. I don't know whether that answers your question. Oh, she's gone.
Oui, je crois, merci.
I have also a question to Tony Heredia. So, Philippe spoke about these other programs that people are now asking, not only a TV program. And I read in the newspaper that in Lagos you are producing a lot of homemade series. So you are Lagos Wood. Nollywood, it's Nollywood, yes, Nollywood. So how important is this business yet today? And another question in relation with this, which TV series are popular in your country, for instance? Which American TV series? I like TV series, so I want to know which one are asked and broadcasted in Nigeria, and what is your own production, and where is it?
Okay, thank you very much. I think I have the opposite of your interest.
You never...
No, I do. I have the opposite of your interest. I don't want to watch an American series. Yeah. And in Nigeria, we're encouraged to do local productions. We really don't accept that. We've even moved up to a level where productions are now 80% local, you know, and 20% others. So we don't want all those imperialism programs that will come and be trying to change the culture of our people, you know. Those programs are no longer the in thing. They used to be in those days.
And your series are of good quality.
Of course.
Yes.
Of course.
Wow.
Yes.
Better than Europe.
Yes. And what you just mentioned now, Nollywood is the leading drama series in the world.
Yes.
Yes, it is. Yes, and a lot of people watch it. In fact, when you watch television these days, they are playing programs from Nollywood.
Yeah.
Yes. Not only in Nigeria, all
Kenya
over.
Kenya also.
Yes, all over.
And are these series also exported? Yes.
That's why we're saying all over.
Yes.
Yes.
That's very interesting. Because you are more developed than Europe.
Well,
because in Europe, all these American series we see.
Well, in terms of series and media, we are more developed than Europe. We are more developed.
Yes.
Yes. But I don't want you to go away with a statement that was made there, which I thought I must respond to, which is related to what you are saying. I don't know which, I think it's either Philip or the next person. You started by saying that, Nigeria is developed and it doesn't need help. I don't agree that Nigeria is developed and doesn't need help, all right? Nigeria is comparatively developed when you look at Nigeria vis-a-vis some other countries. But Ghana is as developed as Nigeria. All right? But that does not mean that these two so-called developed countries don't need help. Like what we're calling development, the station I worked for, and I've not been there for the last 4 years, we have, in the newsroom, we could have 5 to 10 editing suites. All right? That shows development. But you walk into BBC, and they could have 40 editing suites. So development is a comparative thing. Somebody that has 4 times what we have has an advantage in the sense that every reporter can have an editing suite attached to himself. And so he doesn't have to queue up to edit his stories. So the development is still there that you can still help those that are so-called developed.
Yes.
Right?
Perhaps there is a problem of language. In our countries, we say growth and innovation.
Okay.
And when we speak about Africa, we say development. But it's somehow discriminating.
No, but that is the West.
You need growth.
That is the West and American attitude.
Yes.
Of thinking that the only thing that is good is what comes from them.
Yeah.
Whereas
we're working on it.
Whereas many of our people don't enjoy what comes from you.
Yeah. You know? Yeah. So, special thanks to you. I know you go back now to the hotel and you have a long journey before you. Thank you very much for participating to this panel. It was spontaneous. Thank you very much. And have a good journey. And thank you very much to the others. The real star was Patrice. He monopolized. But he was very good. He was very good. Thank you. And we were somehow, listening, but it was a very important also your contribution. Thank you. We heard you this morning. Thank you very much.